Radio Jeune Actu, l'actu tant attendu.
Décrypter.
Transmettre.
Comprendre.
Un micro, des ados, de l'info.
Le 26 août 1942, 15 personnes juives ont été raflées par des collaborateurs français à Mirande.
Ces personnes sont ensuite restées dans le camp du Vernet en Ariège, puis transitées par Drancy avant d'être déportées vers Auschwitz.
Aucune d'entre elles n'a survécu, notamment face à la cruauté dont elles ont été victimes. Aujourd'hui, à Mirande, aucune plaque, aucune stèle ne commémore cet événement. Et même plus surprenant encore, aucun Mirandais rencontré ne semble se souvenir de cette rafle dans les rues de la ville. Nous nous demandons pourquoi. Retour sur cette histoire avec notre reportage.
Après la défaite de la France face au Troisième Reich en 1940 et la signature d'un armistice par le maréchal Pétain, il est créé, en France, un nouveau régime, le régime de Vichy.
Nous avons rencontré M. Cayol, membre de la Société archéologique du Gers et spécialiste de l'histoire de Mirande pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pouvez-vous nous dire sur les origines et le contexte de la rafle du 26 août à Mirande?
Alors, le contexte, c'est d'abord, la France connaissait deux régimes, la zone nord, occupation par les Allemands et régime allemand, la zone sud, occupation par le régime de Vichy, avec application du régime de Vichy, qui, faut-il le rappeler, était un régime autoritaire et antisémite. Dans le Gers, les Allemands, on les verra moins que dans la partie nord du pays, puisque les Allemands envahiront la zone sud le 11 novembre 1942, après la rafle que vous étudiez. Il faut donc prendre conscience qu'à ce moment-là, la rafle va être l'œuvre de Vichy, qui va soit satisfaire les demandes des Allemands, soit même les précéder. Ce qu'il faut comprendre dans le contexte que je vais vous faire découvrir, c'est l'éventail des comportements dans la population. Vous avez les maréchalistes. C'est ceux qui sont rassurés quand la défaite est acquise, que le pouvoir soit conféré au maréchal Pétain, qui était une icône de la guerre de 14. Ça, c'est les maréchalistes. Quand Pétain va exercer le pouvoir et va collaborer, donc, on va avoir affaire à des pétainistes. Là, il y en aura un peu moins, puisqu'il y en a qui vont trouver aberrant la collaboration. Bien, ensuite, vous allez avoir, toujours du côté des vichistes, les vichistes, ceux qui adhèrent à la politique autoritaire et antisémite de Pétain, les vichistes. Là, vous allez avoir ensuite les collaborateurs individuels, ceux qui vont dénoncer des résistants, dénoncer des juifs, participer au renseignement direct ou indirect de l'ennemi. D'accord ? Puis vous allez avoir la milice. Là, la milice, c'est carrément les supplétifs des nazis. Et à l'autre bout, vous avez les résistants. Mais, entre les deux, vous avez une zone grisée. C'est pour ça qu'il ne faut pas aborder ce sujet avec des idées préconçues, les bons et les méchants, le blanc et le noir, voyez-vous. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a un autre sujet qu'il faut évoquer, c'est un complexe, parce que c'est la vérité. Il y avait un antisémitisme ambiant dans toute la France. Et les autorités vichistes veillaient au respect des directives pétainistes. Alors, c'était qui les autorités vichistes pour Mirande? Eh bien, c'était le préfet, qui était vichiste, et son représentant au plan local, qui était le sous-préfet. Ensuite, Vichy avait pris soin d'abord de supprimer le conseil général, c'est le préfet qui avait ses attributions, et on va supprimer les élections. On va prendre des gens qui ne sont pas pour le moins hostile à Vichy et à sa politique. À Mirande, le maire en place sera maintenu par Vichy. Et on lui demandera de constituer un conseil municipal que l'on approuvera. Donc la municipalité de Mirande était choisie par Vichy. Et d'ailleurs, cette municipalité de Mirande prendra des délibérations dans lesquelles elle va voter des adresses au maréchal Pétain pour saluer son œuvre de rénovation en cours. Puis, cette municipalité baptisera le square du monument aux morts de la guerre de 14, square du maréchal Pétain. Et enfin, une autre fois, va renouveler son soutien à la politique du maréchal et va y associer Laval. Les deux, Pétain et Laval, vous le savez, seront condamnés à mort à la libération. Pétain, sa peine sera commuée, Laval sera fusillé. Bon, voilà. Donc vous voyez le contexte. Un antisémitisme ambiant, un outil étatique qui descend jusqu'à Mirande avec le sous-préfet, une mairie vichiste qui n'est peut-être que le reflet de l'ambiance du moment, et c'est la rafle du Veldiv en zone nord où les Allemands réclament 20 000 têtes qui va servir ensuite d'application ou de modèle pour la rafle que vous étudiez d'août 1942 où là on va réclamer en zone sud 10 000 têtes.
Après la conférence de Wannsee, le 20 janvier 1942, les hautignétaires nazis décident de mettre en place la solution finale, c'est-à-dire l'extermination totale des Juifs d'Europe. Dans ce cadre, de nombreuses rafles sont organisées en France.
Le 26 août 1942, de nombreuses arrestations ont lieu dans la zone libre. Ces arrestations sont exécutées par les forces de l'ordre et l'on utilise les fiches de recensement des Juifs établies au préalable par le gouvernement d'Arlan. Les Juifs sont donc transportés dans les camps d'internement. Des entreprises privées louent leurs moyens de transport, bus, camions, afin d'effectuer le transport des Juifs déportés. Les Juifs sont donc transportés jusqu'au camp d'internement, puis jusqu'aux gares, avant d'être déportés vers les camps de la mort. Aux yeux des nazis, le nombre de prisonniers dans les camps est insuffisant. C'est la raison pour laquelle la rafle est planifiée. C'est à ce moment-là que les autorités françaises ont décidé d'aller au-delà des souhaits des nazis en faisant arrêter les enfants. Afin d'illustrer le déroulement concret de cette rafle, nous allons vous présenter deux des 15 arrestations de ce 26 août 1942. D'abord, celle de M. Katzenstein, un apatride déchu de la nationalité allemande, et celle de la famille Reuters. M. Katzenstein est arrêté par le garde champêtre Gussmann de Mirande lors de la fuite de sa maison d'Hydra Crespaillès. Il est amené au camp du Vernet où il tente pour la dernière fois d'échanger avec sa compagne qu'il tente d'épouser depuis quelque temps. Malheureusement pour lui, il n'aura même pas le temps de recevoir une réponse d'elle puisqu'il sera transporté à Drancy et déporté à Auschwitz par le convoi numéro 28. Le couple Reuters, quant à lui, est arrêté le 26 au matin par les autorités françaises.
Monsieur Cayolle.
Ces gendarmes devront amener les personnes ramassées à Auch, au lieu dit Laour. Laour, c'est aujourd'hui là où il y a le parc du conseil départemental. Il y avait là, je crois qu'il y avait là un orphelinat et que ça, ce serait à ce niveau que se serait opéré le rassemblement. Ceci dit, bon. C'était pas 500 personnes ou 1000 personnes. Hein. On sait qu'il est arrivé là, je crois, 120 personnes, quelque chose comme ça. Là, le chef du premier bureau, assisté d'un médecin, va procéder à un criblage. Et il va extraire de là les gens que les gendarmes auraient omis d'extraire parce que ils échappent à la norme prévue. Par exemple, une femme une femme visiblement enceinte, on n'en veut pas. Par exemple. Et si un gendarme, par ailleurs, avait raflé une femme visiblement enceinte, là, à la Our, elle aurait été encore écartée. D'où la présence d'un médecin pour constater l'état sanitaire, etc. Ce n'était pas de l'humanité. C'était Vichy, ne voulait pas s'embêter, avait des gens à problème. On voulait évacuer les Juifs en bonne santé pour les détruire. C'est pour ça que ce monsieur Rotters, qui, lorsque les gendarmes de Mirande iront le chercher au lieu dit Artigues, en compagnie du garde municipal de Mirande, il fera un malaise et les gendarmes penseront à une simulation, mais vont le ramener à Mirande en lui donnant place dans la voiture. Et du coup, eux, avec d'autres juifs du lieu dit, rentreront à pied à Mirande. Et il y a des autocars qui sont là, il n'y a pas eu en avoir 50, il doit y en avoir 2, 3 maximum. Et une fois que le criblage est fini, sous escorte policière ou gendarmique, ces autocars, en présence toujours et jusqu'au Vernet du chef du premier bureau représentant le préfet, va prendre la route et arriver au camp du Vernet. Et au camp du Vernet, on va rassembler divers départements. Puis là, eh bien, on va les déplacer. On va déplacer, selon la terminologie, en zone occupée, les Juifs étrangers, selon la terminologie, à ramasser, selon la terminologie. Et on sait, malheureusement aujourd'hui, que ils ne seront pas déplacés en zone occupée. Ils seront déplacés en zone occupée pour atteindre le terminus français de Drancy. Et hélas pour eux, le terminal atroce de Auschwitz.
Sont les déportés de Mirande. Famille Eisner, Norbert, 31 ans, né le 24 février 1911 à Vienne, en Autriche. Katzenstein, Peter, 38 ans, né le 11 janvier 1904 à Berlin, en Allemagne. Famille Lohenbeck, Mortiz, 47 ans, né le 16 juillet 1895 à Vienne, en Autriche. Emilie Kos, 34 ans, né le 30 décembre 1907 à Fechen, en Autriche. Et leur fils Heinz, 7 ans, né le 10 juin 1935 à Vienne, en Autriche aussi. Famille Rajman, Mosek, 41 ans, né le 12 juillet 1901 à Klinoton. Paula, 35 ans, né le 4 juin 1907 à Koslo. Et leur fille Rina, 4 ans, né le 12 juillet 1938 à Vienne, en Autriche. Famille Roth, Sivia, 74 ans, né le 30 mai 1868 à Woloska. Ariel, 48 ans, né le 29 décembre 1893 à Dinau, en Pologne. Ryuka, 47 ans, né le 14 novembre 1894 à Tyravois. Isaac, 21 ans, né le 15 novembre 1920 à Vienne, en Autriche, et Samuel, 20 ans, né le 20 mai 1922 à Vienne, en Autriche. Famille Rotters, Lothar, 44 ans, né le 16 janvier 1898, et Nora Kessler, 36 ans, né le 3 juillet 1906 à Fribourg, en Allemagne.
Les déportés de la rafle du 26 août 1942 sont envoyés vers Auschwitz à bord de wagons à marchandises. Ils ne sont ni fournis en eau ni en nourriture. Le trajet est long et se fait dans des conditions inhumaines. En effet, ils sont tous entassés les uns sur les autres. Ils doivent supporter les odeurs d'urine. Certains meurent avant même d'arriver au centre de mise à mort ou de concentration à cause du manque d'eau.
Tous les juifs présents à Mirande n'ont pas été raflés en août 1942. Ainsi, nous avons interviewé Madame Suganas, qui a été cachée à ce moment-là.
Papa avait été démobilisé à Mirande. Et pendant qu'il était démobilisé, il avait rencontré des gens. Il s'était lié d'amitié avec des gens. On était à Mirande, en face de l'ancienne gare. Et puis, un jour, ça lui convenait pas parce qu'il trouvait que c'était trop dangereux dans l'endroit où nous étions cachés. Donc, un jour, dans la campagne, il a rencontré les Lacaves. C'était une ferme isolée. Aussi, est-ce que vous voudriez bien héberger ma femme et mon bébé?
D'accord.
Et alors, ils ont dit oui, voilà. Mais alors, ils ont dit, mais la femme et le bébé, ils sont juifs.
Nous sommes partis faire un micro-trottoir dans Mirande pour savoir si les habitants connaissent l'histoire de la rafle de Mirande. Nous étions accompagnés de Madame Zemmoury.
Bonjour, est-ce que vous êtes de Miranda?
Oui.
J'ai une question à vous poser. Donc, nous sommes les élèves du lycée Alain Fournier. Nous travaillons sur la rafle de Miranda le 26 août 1942.
Oh, on n'était pas nés.
Jamais entendu parler.
Ah, est-ce que... Donc vous ne saviez pas. Donc en fait, c'est 15 juifs qui ont été déportés un matin, donc le 26 août 1942. C'est parce qu'en fait, les Allemands avaient besoin de juifs. Ils avaient besoin d'en avoir plus. Et donc, ils sont allés chercher dans les villes.
Oui.
Et donc, c'est les autorités françaises qui sont venues chercher les déportés. Ici, il y en avait 15. Et donc, ils sont ensuite été amenés à Auschwitz.
Oui.
Et ils sont tous morts, oui. Disparus.
D'accord, ça, je connais. Je connais ça. Je ne savais pas qu'à Mirande, il y avait eu des déportés, enfin, une rafle de juifs. Je ne savais pas. Ça, je ne savais pas. Non, mais c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. On n'en a jamais parlé ici. Moi, on ne l'a jamais dit. Oui, non, mais qu'ils aient dénoncé, d'accord, ça, je sais. Mais bon, parce que moi, je m'intéresse un peu à ça. Bon, j'avais un papa alsacien, donc je sais que lui, pour ne pas être enrôlé dans l'armée allemande, il s'est échappé d'Alsace, il a atterri ici. Et bon, je m'intéresse un peu, hein, mais j'ai jamais su que... Et ici, on n'en a jamais parlé. J'ai jamais entendu parler de cette rafle à Miranda. Je suis étonnée.
Et est-ce que vous pensiez que votre père était au courant de cette rafle à Miranda?
Je crois pas. Sinon, il nous l'aurait dit.
Merci beaucoup.
Alors, il paraît que vous connaissez beaucoup de choses sur Miranda.
Alors, nous sommes les élèves du lycée Alain Fournier. Nous faisons un travail sur la rafle de Miranda le 26 août 1942. Donc, en fait, nous voulions vous demander si vous connaissez des personnes qui auraient pu être témoins ou si vous connaissiez cette rafle.
Non, oui, j'ai entendu parler, mais maintenant, je suis sans doute trop jeune pour en savoir davantage.
Bonjour monsieur, bonjour. Nous sommes étudiants au lycée de Miranda à Alain Fournier. On fait un reportage en collaboration avec Radio Coteau et nous venons pour vous demander si vous avez été mis au courant ou été témoin par ailleurs de la rafle qui a eu lieu le 26 août 1942 à Mirande.
1942 à Mirande, non. Je connais les rafles qui sont beaucoup plus malheureusement aussi célèbres et tristement célèbres qui se sont déroulées à Paris. On parle, je suppose, de rafles d'Israéliens ou de Juifs, plus exactement, c'est de ça dont on parle. Vous me répétez la date, voyons, 42 26 juin
26 août.
26 août, 42. Non, je n'ai jamais entendu parler, non, pas du tout.
D'accord.
Bon,
et comment vous expliquez que vous n'en avez jamais entendu parler? À votre avis, hein.
Je n'ai pas d'explication logique. J'aime pourtant beaucoup l'histoire. Non, je réfléchis. Je n'ai pas suffisamment suivi l'histoire spécifique du pays. Je ne savais même pas qu'il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui des communautés. Voilà. Je suppose qu'il n'y avait quand même pas de ghetto à Miranda, j'imagine.
Alors, non, mais ce n'était pas non plus une communauté, mais il y en a quand même eu 15 qui ont été raflés en premier tour. Et deux autres, ça fait 17 personnes quand même.
Ça fait 17 personnes de trop.
Pour une communauté comme Miranda.
Ça fait 17 personnes de trop.
Mais pour une communauté comme Miranda, que personne n'en ait entendu parler, parce que vous êtes le quatrième qu'on interroge et personne n'en a entendu parler.
Non, je n'ai pas d'explication logique.
C'est beaucoup pour Miranda, non? 17 quand même.
Surtout à cette époque-là, par rapport à la population française, à la population du département, et l'importance que Miranda représentait en tant que sous-préfecture, puisque, bon, comme on le sait, il y avait une caserne de militaires, il y avait... Voilà, donc, non, je n'ai pas d'explication.
Et vous pensez quoi du fait qu'il n'y ait même pas une plaque commémorative? Ou quelque chose, je ne sais pas.
Ah là, franchement, j'ai pas d'opinion, parce que les plaques commémoratives, on en met à tout bout de champ. Là, j'ai vraiment pas d'opinion. D'ailleurs, une plaque, une plaque, pourquoi faire? Parce que si c'est pour les gens qui passent la tête baissée devant, bon, ça n'a que l'intérêt. Non, franchement, je ne sais pas. Voilà.
Comme vous l'avez entendu, nous avons rencontré plusieurs Mirandais.
Et aucun d'entre eux ne connaissait l'histoire de la rafle de Miranda.
Nous avons trouvé ça très choquant, le fait que personne ne connaisse l'histoire, sachant qu'il y a eu quand même 15 personnes déportées juives qui ne sont jamais revenues.
Parti sur les traces des victimes de cette rafle.
Bonjour, là il est approximativement 5h et on est bien arrivé à Blagnac à l'aéroport.
Battement, ferme la porte à l'avant et à l'arrière de l'appareil. Merci et au revoir.
En direct de l'aéroport de Cracovie, on est bien descendu de l'avion et là on se dirige vers le bus pour Auschwitz. Donc on vient de descendre du bus qui faisait la liaison Cracovie-Auschwitz. Donc là on est en direct de Auschwitz-Birkenau, donc Auschwitz 2.
Pacha, un guide, va nous expliquer le camp.
Effectivement, tout le monde ne passe pas la sélection. Qui la passe là ? Si pas tout le monde. Les juifs, exactement, les juifs doivent passer une sélection.
Un centre de mise à mort ou centre d'assassinat, auparavant appelé camp d'extermination, est un camp qui dispose de dispositifs d'assassinat en masse. Il s'agit d'un centre destiné à accueillir des peuples ou des individus que l'on va tuer, dans un seul but, exterminer un maximum de personnes en un minimum de temps. Ils sont créés et organisés par le régime nazi d'Adolf Hitler, qui en a construit plusieurs avec des chambres à gaz pour éradiquer leurs victimes. Les centres de mise à mort furent créés en Pologne annexée et occupée pour mettre en œuvre la solution finale. Contrairement aux camps de concentration qui servaient essentiellement de centres de détention et de travail, les centres de mise à mort furent presque exclusivement des usines à tuer. À côté de ce caractère mortifère fondamental, un volet économique est également mis en place dès l'origine via la confiscation et la récupération des biens des victimes. La grande majorité des victimes est assassinée par gazage, ce qui est une des caractéristiques des centres d'extermination. Sont notamment utilisés des camions à gaz ou des chambres à gaz où l'asphyxie fait suite à l'injection de gaz d'échappement d'un moteur. Le commandant du camp, Rodolphe Franz Oes, met au point l'utilisation du Zyklon B. Il s'agit durant la Seconde Guerre mondiale du gaz qu'utilisaient les nazis dans les chambres à gaz pour augmenter le rendement de ces meurtres.
Une chose à Auschwitz, surtout pour les juifs, il y a plein d'entrées à Auschwitz. Par contre, il n'existe aucune sortie. Les seules sorties possibles pour les juifs dans l'idée nazie, c'est soit dans la terre, soit par la cheminée. Il n'y a pas d'autre solution. Le but étant d'exterminer que ce soit soit par le travail, soit par le gaz. Donc les entrées du camp sont par là et par là. Est-ce que nous sommes du coup à l'intérieur du camp de concentration ? Pas encore. Nous sommes dans une zone de transit, de transition. C'est à cet endroit-là où sont choisies les personnes qui sont aptes ou non à travailler, parmi les juifs.
Le camp s'étendait sur 175 hectares et était divisé en plusieurs sections délimitées par des barbelés et des clôtures électrifiées. Donc à raison de sa taille, Auschwitz est considéré comme le symbole des meurtres de masse commis par les nazis, et plus particulièrement comme celui de la Shoah, au cours de laquelle près de 6 millions de juifs furent assassinés. L'ensemble du camp d'Auschwitz et Birkenau comprend 155 structures de briques et bois, 57 à Auschwitz et 98 à Birkenau, et environ 300 ruines. Il y a aussi des ruines de chambres à gaz et des crématoires de Birkenau qui ont été dynamités en janvier 1945. Auschwitz-Birkenau n'était pas un camp comme les autres. Il a été construit dans le but d'exterminer les prisonniers qui y rentraient. Pour cela, il a été équipé de 5 chambres à gaz et de crématoriums, chacun pouvant accueillir 2500 prisonniers. Auschwitz est particulier dans la mesure où il comprend des zones d'internement associées à des camps de travail.
Christopher, un guide polonais à Auschwitz, va nous expliquer le fonctionnement d'une chambre à gaz.
Donc, c'est à l'identique. Ici, toutes les parties, donc déshabillage, gazage, crémation, étaient au niveau du sol, au rez-de-chaussée. Et dans les installations 2 et 3, il y en a eu qui étaient au sous-sol. lettre B, c'est la salle de déshabillage. Hommes, femmes, enfants, tout ce qui était inapte au travail pendant le tri, il se déshabillait là, d'où les victimes passaient dans l'autre pièce imitant les douches, mais par lesquelles l'eau ne coulait jamais, en fait une chambre à gaz. On pouvait entasser là même 2000 personnes. Voilà, c'est la capacité de cette pièce. Et dans les murs de deux côtés, il y a eu des trous, des ouvertures pour introduire le produit qui s'appelait le gaz cyclombé à l'intérieur de la chambre à gaz. Et pour tuer 2000 personnes, l'agonie 15-20 minutes. Donc des gens souffraient. Les gens mouraient par asphyxie car le gaz cyclombé se vaporisait par le contact avec l'air. Les gens mouraient par asphyxie. Une fois que tout le monde était mort, son travail commençait l'équipe qui s'appelait Sonderkommando. Sonderkommando, groupe spécial, Sonder spécial en allemand, c'était l'équipe de prisonniers juifs. Ils transportaient les cadavres par le vestiaire jusqu'au four. Et avant la crémation, ce Sonderkommando coupait les cheveux, arrachait les dents au nord, enlevait les bijoux, aux dépouilles, aux cadavres. Dans ce crématorium par jour, 768. Dans tous les crématoires, il y en a eu 5 dans les deux camps, environ 4800, presque 5000 par jour. Alors une échelle industrielle du crime. Évidemment, le Sonderkommando, donc détenu s'occupant des corps, ces gens étaient liquidés à des intervalles de quelques mois. Pourquoi ? Ils étaient mes témoins oculaires du crime, les plus proches, et à leur place, ils formaient un groupe nouveau. Mais parfois, ces gens devaient brûler leur mère, père, enfant ou membre de leur famille, arrivant dans d'autres convois.
Les conditions d'internement sont éprouvantes. En effet, la Pologne a un climat qui, pendant l'hiver, est très froid, atteignant les moins 20 degrés. Ajouté à cela un semblant de vêtements déchirés, les prisonniers avaient très froid. De plus, la journée de travail est très dure. Réveillés à 4h30 du matin pour se tenir en rang jusqu'à l'arrivée des SS 3h plus tard, les prisonniers finissaient leur journée à 19h sans pause. Après cela, leur seul repas leur est donné. Il est constitué de soupe, de pain moisi et d'une tranche de saucisson aussi moisi. La famine a donc lieu et cela affecte l'organisme des captifs. En effet, la diarrhée, la perte des règles pour les femmes et même certaines maladies comme le typhus apparurent dans le camp. De plus, les baraquements où dorment les prisonniers sont surpeuplés. Dans un seul, il y a entre 800 et 1000 hommes qui dorment à 5 ou 6 dans un seul lit fait en bois et en paille.
Bloc d'habitation, c'est un dortoir. Il y a 18 compartiments avec des lits, des boxes comme ça. Un bloc en bois était pour 400 personnes, mais normalement c'est 1000 ou plus même qui étaient là. Mais ces conditions changeaient, ça dépendait du nombre et du volume des convois qui arrivaient.
Les lits étaient superposés sur 3 étages, les plus forts dormaient en haut pour ne pas recevoir la diarrhée des autres. Il y a alors des combats entre les détenus ainsi que des vols.
L'ancien détenu, il ajoutait que pendant la nuit, il dormait habillé. Les cas de vol étaient assez fréquents parmi les gens et c'était bien pensé par le SS qui voulait que les gens se battent, insultent, volent les uns ou les autres pour qu'il n'y ait aucune solidarité entre eux.
À ce sujet, nous avons appris que l'Institut Yad Vashem pour la mémoire de la Shoah conservait le témoignage de Madame Zeglani, fille de Peter Kachetstein, indiquant que ce dernier était mort fin novembre, début décembre 43, après avoir été sauvagement battu pendant son internement.
Dans le bâtiment, la touffeur, l'odeur, l'humidité, les insectes et les rats qui attaquaient les malades les plus affaiblis. Alors les conditions d'habitation et sanitaires étaient en fait l'un des moyens pour tuer. Ça a été fait exprès.
En outre, les capos qui étaient les chefs des baraquements, ainsi que des criminels de droit commun, étaient particulièrement sévères. En effet, ils étaient responsables du baraquement et un seul problème signifiait leur mort. Certaines survivantes racontaient que les capos ont touché et violé les prisonnières. Mais les plus sévères étaient assurément les gardes du camp qui, par exemple, battaient les prisonniers pour un bouton manquant ou encore les tuaient par des moyens douloureux dans le bloc 11, le bloc de la mort, où plusieurs cellules étaient des cellules de torture et de tuerie.
La mémoire du génocide d'Auschwitz est entretenue de plusieurs manières. Le site Auschwitz-Birkenau est devenu un musée et un mémorial de Holocauste où les visiteurs peuvent apprendre sur les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Des cérémonies commémoratives sont organisées chaque année pour honorer les victimes de l'Holocauste. Des programmes éducatifs sont mis en place pour enseigner aux jeunes générations sur l'importance de la tolérance et de la coexistence pacifique. Les témoignages de survivants de l'Holocauste sont recueillis et diffusés notamment sur les horreurs vécues par les prisonniers d'Auschwitz. Des recherches historiques sont menées pour documenter les événements qui ont conduit l'Holocauste et pour préserver la mémoire des victimes. En somme, la mémoire du génocide d'Auschwitz est entretenue par un travail de mémoire constant et rigoureux afin de rappeler les horreurs du passé et de prévenir toute forme de discrimination et violence à l'avenir.
Nous avons interrogé Carole Delga sur le rôle de la région en matière de mémoire et en particulier celle du génocide.
Bonjour Madame Delga, est-ce que pour commencer vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît?
Donc Carole Delga, je suis présidente de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée. Donc c'est une région de 6 millions d'habitants, de 13 départements. J'ai 51 ans. Et je suis présidente de la région depuis maintenant 7 ans.
Merci beaucoup. Donc, comme aujourd'hui, on vous a rencontré dans le cadre d'un événement du Mémorial de la Shoah, nos questions vont s'axer plutôt sur ce domaine-là. Est-ce que, déjà, vous pourriez nous expliquer quelle est la raison de votre venue aujourd'hui ?
Donc la région, elle soutient beaucoup d'actions pédagogiques autour du devoir de mémoire. On est par exemple propriétaire du mémorial de Rivesaltes, qui est basé dans les Pyrénées-Orientales et qui fait tout le travail de mémoire, que ce soit par rapport à la Seconde Guerre mondiale, donc par rapport à l'antisémitisme, par rapport aussi aux républicains espagnols, par rapport à la guerre d'Algérie. Donc tout ce travail de mémoire, nous le menons. Nous soutenons des actions menées par des lycées et on a un partenariat particulier avec le mémorial de la Shoah pour faire en sorte qu'il y ait 150 lycéens chaque année au moins qui fassent le voyage jusqu'à Auschwitz pour qu'ils puissent avoir connaissance de la réalité, de ce qu'a été l'Holocauste, de ce qui a été les conséquences d'un régime fasciste et nazi. Et donc c'est vraiment dans ce devoir de mémoire de lutte contre l'antisémitisme et de lutte contre les idées d'extrême droite que cette année, exceptionnellement, j'ai pu accompagner les lycéens, mais ça fait 7 ans qu'on met en place ce dispositif. Ce devoir de mémoire, il doit se faire à travers vous, la nouvelle génération, parce que vous allez avoir aussi un rôle de transmission très très fort, parce que contrairement à moi, vos grands-parents, ils n'ont pas connu la Seconde Guerre mondiale, et donc vous n'avez pas des témoignages dans vos familles, et je pense que le déplacement, le contact physique, je dirais presque charnel avec cette terre qui a connu l'innommable, l'indicible, c'est-à-dire la pire chose de ce que peut faire l'humanité, c'est-à-dire massacrer l'autre, son prochain, eh bien je trouvais que c'était important que vous ayez ce contact, cette vue, parce que ce sera à travers vos témoignages qu'il pourra y avoir cette transmission et le fait qu'il n'y ait plus jamais de reproduction d'un tel drame à l'échelle humaine.
Pour conclure ce reportage, nous avons interviewé le maire de Mirande, M. Patrick Fanton.
Bonjour Monsieur le maire, pouvez-vous vous présenter rapidement s'il vous plaît?
Alors me présenter, je m'appelle Patrick Fanton, je suis maire de Mirande depuis pas tout à fait 3 ans, puisque j'ai été élu en juillet 2020. Je suis médecin, donc pas obligatoirement des études qui prédisposent à être maire. Je suis aussi le président de la communauté de communes Cœur d'Astarac en Gascogne. J'ai 68 ans.
Est-ce que vous avez déjà eu connaissance de la rafle qui a eu lieu le 26 août 1942 ?
J'habite une maison à l'entrée de Mirande où habitait à l'époque de la guerre un curé. Et il m'était revenu que ce curé avait abrité des juifs. Et heureusement, a priori, des juifs qui, eux, n'avaient pas été victimes de la rafle. Donc, à titre personnel, pas du tout en tant que maire, mais en tant qu'habitant dans cette maison, j'avais eu comme information que, malheureusement, à Mirande, comme dans un certain nombre d'autres villes dans le Gers, pas spécialement à Mirande, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'il n'y a eu qu'à Mirande que des juifs ont été raflés. Il y a eu malheureusement des rafles dans un certain nombre de villes à Mirande. Je me suis laissé dire que c'était autour d'une centaine dans le département et 15, si mes souvenirs sont exacts, à Mirande.
Alors, comment vous pouvez expliquer qu'il y ait une telle absence de connaissance sur cette rafle?
Bon, d'abord, il y a la distance. Hein. C'était il y a 81 ans, si je comprends bien. Et donc... Il faut imaginer que la quasi-totalité des gens qui étaient adultes à ce moment-là ne sont plus là. Il pourrait y avoir des membres de leur famille, mais le contexte... nous savons, nous, maintenant, qu'il y avait des camps d'extermination, et nous savions que les Juifs y étaient conduits, et d'ailleurs pas que les Juifs, malheureusement. Mais à l'époque, je pense que les gens ne le savaient pas, enfin, en tout cas, le pecum vulgaris, le citoyen, ne savait pas, puisqu'on lui présentait, on leur présentait les choses comme des juifs étrangers que l'on amenait, que la gendarmerie amenait, pour les ramener à l'Est dans des camps de travail. Hein, grosso modo, c'était ça. Vous confirmerez ou pas ce que je dis. Et donc, qui plus est, les choses se sont faites en catimini. Je pense que, bien évidemment, sur l'ensemble du département, cette rafle, ce qu'on appelle maintenant une rafle, ce qui était à l'époque des arrestations, se sont faits dans le plus grand secret, probablement le matin, et quel pourcentage de la population de Mirande de l'époque a été au courant que des gens ont été arrêtés par la gendarmerie et amenés ailleurs, je pense que c'est probablement relativement faible. Et donc, faible au départ, 80 ans après, je pense qu'il y a peu de souvenirs. Qui plus est, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas eu d'élection municipale en 1940, puisque le régime de Vichy a décidé de nommer, c'était le préfet du département qui nommait les maires, et qui validait leur conseil municipal, ce qui a été le cas de Mirande, comme ailleurs. Et on peut considérer, surtout quand on lit certaines délibérations du conseil municipal de l'époque, de Mirande, qu'il y avait certaines accointances avec le régime de Vichy. Et donc, ce qui sous-tend que dans Mirande, comme certainement dans d'autres communes à l'époque, M. Pétain était considéré comme le sauveur de la France, quelqu'un qui avait arrêté la guerre, etc., etc. Et il y avait un pourcentage de la population probablement non négligeable qui soutenait cette politique. Qui plus est, la commune n'a pas, et je ne sais pas d'ailleurs si c'est le cas dans d'autres communes où il y a eu des rafles, n'a pas commémoré cette rafle, et il n'y a pas effectivement de monument commémorant cette rafle. Donc, effectivement, aucun Mirandais ne s'arrête devant un monument pour dire, ou visiteur, pour dire il y a eu une rafle à Mirande.
Pourquoi n'y a-t-il pas à Mirande une stèle ou un petit monument commémorant ce triste événement?
Je ne sais pas. Encore une fois, je suis maire depuis 3 ans. Il est probable que personne n'a considérer que cet événement méritait un monument de rappel. Et je suppose que vous allez dans un moment me demander si on a l'intention de faire un monument. L'année prochaine, c'est l'année des 80 ans de la Résistance. On a l'intention de rétablir un certain nombre de vérités sur Mirande. Parce que s'il y a eu ce problème vis-à-vis de ces Juifs qui ont été raflés, il y a eu aussi un certain nombre de gens qui se sont opposés au régime nazi, et en particulier par les armes, et ces gens n'ont pas été, eux, honorés, ou très peu. Donc tout ça a besoin, non pas d'être réanimé, mais d'équilibrer un certain nombre de choses. Possibilité l'année prochaine, en 2024, des 80 ans de la Résistance va permettre à la commune, je pense, encore faut-il que le conseil municipal en soit d'accord, ce n'est pas le maire qui décide, c'est le conseil municipal, mais le maire va proposer un certain nombre de choses au conseil municipal autour de ça, et peut-être on réfléchira à savoir s'il faut ou pas faire un monument à la rafle de ces personnalités qui ont été raflées donc en août 1942 sur cette commune. Mais encore une fois, je ne sais pas si ça existe dans d'autres communes du Gers, s'il y a des monuments. Je ne crois pas qu'il serait bon que Mirande paraisse être seule une ville où il y a eu une rafle, alors que ce n'est pas le cas. Il y en a eu à Roche, il y en a eu dans toutes les communes. Voilà. Il ne faut pas donner l'impression qu'ici seulement des Juifs ont été raflés, parce que malheureusement ça n'a pas été le cas.
Notre enquête a donc permis de faire ressurgir l'histoire de cette rafle du 26 août 1942. Il reste donc à faire à Mirande le travail nécessaire pour entretenir la mémoire des victimes de cette arrestation. L'interview de Monsieur le maire laisse entendre qu'une réflexion va être engagée pour cela.
Merci d'avoir écouté notre reportage. Pour terminer, nous souhaiterions remercier en particulier Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, ainsi que le mémorial de la Shoah, qui ont permis d'œuvrer notre voyage d'études à Auschwitz, mais aussi et surtout Monsieur de la Bardoni, le proviseur du lycée Alain Fournier, qui nous a permis d'avoir l'honneur de visiter Auschwitz. Ensuite, nous souhaiterions remercier Sacha et Christophe, les deux guides qui nous ont accompagnés durant notre visite à Auschwitz, mais également les personnes que nous avons pu interviewer, donc Monsieur Cayol, le lieutenant-colonel à la retraite, ainsi que Monsieur Fanton, le maire de notre ville,
et Madame Suganas, sauvée par des justes.
Mais aussi, nous souhaiterions remercier Madame Zemouri qui nous a accompagnés dans la confection de notre reportage et Madame Joss qui nous a apporté des connaissances en montage. Et pour finir, Monsieur Breneau, le documentaliste qui a accompagné les élèves.
Un grand merci aussi à Madame Blondin et à Monsieur Berthaumieux.
Radio Jeune Actu, l'actu tant attendue.
Décrypter.
Transmettre.
Comprendre.
Un micro, des ados, de l'info.